Suis-je accro aux anonymes ?
Les anonymes anonymes ?
Est-ce que t'es accro ?
Accro-cro ?
Onyme.
Onyme ? Onyme ?
Ouais. Onyme.
Onyme.
Voilà. Eh bien, bonjour MMMan, bonjour Maître Belle.
Hello.
Bonjour Cécile.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un invité, Jean-Jacques. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je crois que MMU, tu nous as trouvé un invité cette fois pour cette émission.
Oui, bah, j'ai invité Jean-Jacques pour parler un petit peu de l'association voilà, dans laquelle il est et full disclosure dans laquelle je suis également, même si je ne suis pas vraiment actif parce que je n'ai pas le temps. Donc, voilà.
Mais, vous.
Non, je déclare tous mes conflits d'intérêts, moi, contrairement à beaucoup d'autres. Des noms. Et voilà. Et donc, on va parler donc de Fou PGP.
Ok.
Donc, dedans, il y a PGP. Donc, peut-être qu'il y en a certains qui en ont entendu
oui,
parler.
Oui, ça me dit quelque chose.
Exactement. Bah, voilà,
c'est un truc informatique encore.
En détail.
Ah oui, mais c'est vrai. On est sur Underscore.
Eh bah oui, bienvenue dans Underscore.
Ah oui, bah oui.
Voilà. Et l'émission qui vous dit tout sur l'actualité
c'est
du numérique.
C'est ce que je viens de dire.
Ah. Il fallait le souligner.
Et même qu'on va passer par de l'actu.
Eh oui, qu'est-ce qu'on a à l'actu ?
Quick à l'Adopi, le Conseil d'État a donné raison à la quadrature du net. French Data Network, FDN, francilien.net et Fédération FDN. Il a reconnu que le système de surveillance de la Adopi opéré depuis 2021 par l'ARCOM n'est pas compatible avec le respect des droits fondamentaux protégés par l'Union européenne. En conséquence, il a enjoint au gouvernement de procéder à la prorogation d'une partie d'un décret central de la Adopi qui organise sa riposte graduée. Ce combat, la quadrature le mène depuis les premiers débats législatifs à l'Assemblée en 2009.
En effet ?
Ah oh, c'est génial. Et pour l'ANSSI, la France n'est pas à la hauteur des cyberattaques. Ramener sa population... La France est le pays le plus touché par des violations de données au monde. La France affiche une densité de violations 12 fois supérieure à la moyenne mondiale. Oh, on est mauvais élèves. Pour une fois qu'on est les meilleurs quelque part.
Ah oui, quelque part.
Cybermalveillance.gouv.fr publie son rapport 2025. Le dispositif national de prévention a franchi un cap avec plus de 500 000 victimes assistées, en hausse de 20% par rapport à 2024.
EuroOffice, nouvelle alternative à Microsoft Office, fruit d'une coalition d'entreprises réunissant Ionos, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject et d'autres. EuroOffice est une suite bureautique open source présentée comme souveraine et comme une alternative au géant Microsoft. Par contre, sera un peu jaloux en OnlyOffice. Hein.
Le Dynam annonce sa sortie de Windows au profit de postes de travail sous système GNU/Linux. Le Dynam, et son nom l'état français comme vu ailleurs, quitte enfin Microsoft Windows pour Linux sur les postes de travail de ses 250 agents et agentes et demande aux différents ministères de préparer leur plan de transition vers moins de dépendance étrangère d'ici l'automne 2026.
Eh bien, c'est tout pour l'actualité.
Eh oui. Alors, la DINUM, pour rappel, c'est la Direction interministérielle au numérique.
Merci pour la précision. Allez, on écoute une petite musique.
Alors, si j'arrive à lancer, parce que j'ai plus
de soucis avec le cartoucheur. High score de Virgile. Mais... Virgile !
Allez, c'est parti.
Thank you.
Il s'agissait de High Score de Virgile. J'ai pas pu m'empêcher, hein. Oui, encore une musique qui est issue de la révision 2026. Cette musique a accompagné une démo qui a été proposée dans la catégorie Amiga et elle a terminé troisième. Et Virgile, bah c'est Virgile, quoi. Et bon, c'est vrai que pour le coup, tu avais du son binaural dans ta dans ton oreille.
Ah oui, mais on sent bien la différence.
Alors pour nos auditeurs qui écoutent au casque, oui, vous allez voir, il y a une différence entre les deux niveaux, entre le gauche et la droite. C'est pas pareil et c'est normal. Eh bien, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, nous avons un invité, Jean-Jacques, et je te laisse la parole pour que tu puisses le présenter.
Eh bien oui, ben, bienvenue Jean-Jacques. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça?
Alors, je suis ingénieur informaticien.
Ah ben voilà.
Ah, comme
ingénieur
informaticien.
Non, désolé. Je suis.
Ben oui. Mais il y a plein de jeunes qui n'ont plus la référence.
Bon. Ah, oh, c'est arrivé qu'on la passe hein, dans l'émission.
Oui.
Bien, bien. Oui, donc je suis tombé dans le logiciel libre à la fin de mes années d'études en école d'ingénieur. Et depuis, ben, j'en suis pas sorti. Et ça m'a ouvert des portes, puisque ça m'a permis de commencer ma carrière comme formateur. Bon, ça s'est mal passé parce que j'étais très jeune et j'avais aucune expérience du monde professionnel. Bon, bref. Mais j'ai quand même, voilà, à peine sorti d'école, j'enseignais à des gens qui avaient 20 ans plus que moi comment configurer Apache, comment faire du Bash, du Shell, du SSH, etc. Mmh. Ouais, bon, je ne comprenais pas du tout leurs attentes, donc ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, j'étais chez Sagem. Chez Sagem, c'est très passionnant parce qu'on avait un plateforme. Techniquement, en fait, c'était pour mettre Linux sur le téléphone Sagem. Voilà, on était en train de faire quasiment Android en France. Mais hélas, 6 mois après, ça s'est arrêté. Et il y avait des collègues qui faisaient du reverse engineering sur les premiers iPhones. Mmh. Et oui, j'ai subi des décisions de décideurs qui ne comprenaient pas grand-chose de la technique, qui pensaient qu'en alignant des gros chiffres, ils allaient pouvoir décider de ce qui allait se vendre et ce qui allait pas se vendre. Et qui pensaient Linux sur smartphone, ça ne marchera jamais. Voilà. Alors, maintenant, quand on sait les parts de marché d'Android.
Eh oui.
Qui aurait pu prévoir voilà.
Quelques regrets.
Bon,
et sans compter bah, l'histoire Nokia aussi que j'ai suivi de très près. Bon, ouais, ça, c'est... Ouais. Ensuite, j'étais chez Philips Setbox. Et là, c'était passionnant. Pendant 2 ans, j'ai fait de la R&D pure. Je faisais des applications. Je lui montrais tout ce qu'on pouvait faire sur du matériel pas cher, donc de l'embarquer. Ouais. Essayer de faire le maximum. C'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on utilise. Les meilleurs à l'époque, hein, faut pas le dire, c'était l'équipe de Free, et on était en train de leur courir après.
Les box ADSL, quoi.
Voilà. Les box, alors moi, c'était plus les box télé. J'étais plus dans la partie télé, donc média, multimédia.
De chez Free
aussi, non, j'étais pas chez Free, j'étais chez Philips. Alors, Philips Setbox, il faisait aussi le boîtier canal. Et moi, je faisais les advanced devs, c'est-à-dire que les choses qui. Ensuite, je faisais des POC, je faisais des logiciels, des petits morceaux, je bidouille des trucs. C'est génial.
Alors, POC, c'est Proof of Concept, c'est l'épreuve de. Voilà, pour montrer que ça peut marcher.
C'est ça. C'est ça. Et ensuite, donc l'époque que je faisais, elles étaient, il y a le salon d'Amsterdam tous les ans, le gros salon sur le sujet, ou Las Vegas, voilà, ils montraient ce que je faisais. Moi, je ne me les passais pas, mais ils montraient ce que j'avais fait dans leur petit showroom, etc. Pour dire,
Donc
voilà, ça peut marcher.
t'as bien bossé dans l'embarqué, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, ça m'a amené chez Orange, où chez Orange, bah, c'était une grosse boîte. Alors, ce qui était assez passionnant, c'est qu'à la fois, j'étais dans le début du big data, justement, j'ai vécu de l'intérieur les scrupules qu'on pouvait avoir entre dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données clientes, est-ce qu'on les exploite au maximum ou est-ce qu'on essaie de les respecter. Donc, c'était des tensions qui nous traversaient, nous, dans les équipes, notamment justement entre les équipes commerciales qui, elles, voulaient, bah,
La
maximiser le
tentation
profit,
marketing. Ouais.
et
Alors,
les. Vas-y.
c'était avant le RGPD. Sauf qu'avant le RGPD,
Oui.
oui, sauf qu'avant le RGPD, il y avait la loi française qui faisait à peu près la même chose.
C'est
Mais vu qu'il
ça.
n'y avait aucune sanction, bah c'était pas très grave. Hein, on va dire ça.
Bon, ouais. Ce que je vous dis, c'est qu'il ne faut pas dire que
On n'a
dans
rien
toutes
dit.
les boîtes, il y a des tensions entre des gens qui
Voilà.
essaient de qui ont des scrupules et d'autres qui n'en ont pas. Et des gens
C'est
qui ont
comme partout,
certains.
oui.
Ouais, bah. Bon, mais du coup, si je t'ai fait venir dans l'émission, c'est pour parler de FouPGP. Alors,
Ah oui.
FouPGP, c'est quoi?
Alors, ça a commencé vraiment. L'association, elle a que 3 ans, elle est de 2023. Mais en fait, elle pour réparer quelque chose qui a commencé justement chez Orange. Alors, chez Orange, à la fois, il y avait. J'avoue que j'avais des jours où je m'en perdais un peu. J'avais le temps de regarder autre chose, de faire beaucoup de veille technologique. Donc, j'ai découvert le Bitcoin, ben, l'année où c'est sorti, en 2009. Et j'ai commencé un projet qui s'appelait OpenIDC. Et qui devait pour faire, ben, ça a quand même donné ses petits, mais pas comme exactement comme je voulais, puisque c'est un peu ça le projet qui est à l'origine de la monnaie libre, la June. Voilà. Et en fait, donc dans la solution que j'avais dessinée à l'époque, que j'avais commencé à dessiner chez Orange, et ensuite je me suis même arrêté 2 ans pour l'avancer, ça devait utiliser OpenPGP. Et en fait, OpenPGP, et là c'est une super technologie OpenPGP, mais que trop de gens méconnaissent. Alors c'est vrai qu'il était à l'époque complexe à appréhender. Et là, tout le travail, là, alors, trop de gens la méconnaissent, mais c'est une technologie dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour lutter contre la surveillance de masse, pour casser les hiérarchies de pouvoir, pour justement proposer des modèles économiques ou des modèles technologiques qui respectent un peu l'individu et la planète. Donc pour moi, c'est vraiment crucial de faire monter tout le monde en compétence, les utilisateurs comme les développeurs. C'est ça la mission première de l'association FouPGP. Et si à l'époque de la monnaie libre, les autres développeurs qui m'ont un peu suivi à l'époque avaient cette connaissance, bah, peut-être qu'on aurait eu une monnaie libre qui marcherait beaucoup mieux. Bref, mais on ne va pas trop parler de la monnaie libre ce soir, donc on va parler surtout d'OpenPGP, qui est dont le but principal de l'association, dont le but est de vulgariser, de démocratiser les usages d'OpenPGP. Et pour ça, on s'en a aussi, excuse-moi encore de ne pas vous laisser parler, on a développé des outils qui facilitent
Démocratisation.
Ouais, la démocratisation et le fait de pouvoir que tout le monde utilise. Et par exemple, actuellement, ben, on fait des ateliers, il y a des personnes qui sont très loin de l'informatique, qui arrivent maintenant à chiffrer et signer leurs emails. Et donc, c'est un niveau de sécurité aussi qui est supérieur, par exemple, à Signal. Voilà.
Alors justement, pour nos auditeurs, PGP, ça veut dire quoi?
Ah.
Ah.
Pretty Good Privacy. En fait, c'est une technologie qui est née avec Internet dans les années 90, bon, plus exactement Philippe Zimmermann. D'ailleurs, qui a eu des soucis avec la justice américaine à l'époque, puisqu'en fait, il apportait au grand public des solutions de chiffrement
Oui.
d'un niveau militaire.
Donc
Et,
chiffrement, ça veut dire que quand on échange des messages, nos messages sont cryptés, c'est ça?
Alors, on dit chiffré en
alors,
français, mais oui.
c'est ça, exactement. Dans
J'ai pas pu
le
m'empêcher, désolé.
voilà, enfin, c'est le
Mais
débat
oui.
d'experts, on dit chiffré, on dit pas crypté. Oui, c'est ça, c'est mathématiquement impossible de lire le message sans avoir la clé de déchiffrement.
OK.
Voilà, l'idée, c'est que, alors, il y a plusieurs termes. Il y a chiffré, il y a signé. Alors, chiffré, en gros, c'est pour permettre une communication entre deux personnes sans qu'un tiers puisse voir ce qui est échangé.
Ouais, ils échangent une clé
Voilà.
publique et une clé privée, non, c'est
Alors
ça?
après, il faut effectivement avoir à l'avance échangé des clés, etc. Il y a plusieurs façons de faire. Mais le but, c'est de chiffrer les échanges, donc de pas permettre à d'autres de savoir ce qu'on échange.
Un peu comme chat contrôle.
Bah, chat control, il veut éviter, contourner ce truc-là. Et signer, par contre, c'est juste permettre de certifier en fait que l'émetteur,
C'est bien moi.
Qui prétend être l'émetteur, c'est bien le bon émetteur. Okay. Donc ça peut être en clair. On peut faire les deux, on peut chiffrer et signer, mais bon. Mais enfin, voilà. Mais le signer, ça veut dire, bah, en fait, je sais que c'est toi qui m'as bien envoyé ce mail, parce qu'avant, j'avais déjà ta clé, je savais que c'était la tienne, et donc je peux confirmer que c'est bien toi qui m'as envoyé ce mail, okay. etc.
Et dans le cadre du PGP,
c'est une technologie ouverte qui est en fait utilisée à plein partout, par plein de personnes, mais sans souvent dire que c'est OpenPGP. Par exemple, ProtonMail utilise PGP. Pas mal de solutions utilisent PGP. Pour signer avec Git, quand on signe ses commits, tous les développeurs ils utilisent PGP. On peut très bien aussi utiliser PGP pour faire de l'authentification SSH. Et on aurait pu très bien faire du OpenPGP pour faire de l'authentification web à la place de Fido WebOTN. D'ailleurs, à l'époque, en 2012, quand je me suis arrêté de Orange, j'avais commencé une spécification, et j'avais commencé aussi encore des POC, des Proof of Concept, pour utiliser OpenPGP pour s'authentifier sur le web, ce qui permettrait de s'authentifier sans login mot de passe, de faciliter grandement l'usage en augmentant le niveau de sécurité. En fait.
Oui, parce que là, pour le coup, oui, il faut toujours retenir le mot de passe. Tout le monde n'a pas un truc qui centralise ses mots de passe. C'est chiant, quoi.
Ça peut être embêtant.
Surtout que en plus, à l'époque, il y avait déjà des cartes à puce OpenPGP, en fait, et des connecteurs. Et donc, en fait, il y avait juste. On pouvait s'authentifier donc, sur Internet en rentrant sa carte à puce, en connectant sa carte à puce à son ordinateur et en tapant juste un code PIN comme on tape un code PIN quand on utilise sa carte bleue. D'accord. Exactement pareil.
Et là,
on avait juste un code PIN à l'entier.
Et là, l'idée, c'est que, en fait, la clé primaire que tu utilises, elle reste dans la carte. Et en fait, tu envoies des infos que la carte va chiffrer pour toi et qu'elle te renvoie chiffrer ou déchiffrer dans l'autre sens. Mais en fait, la clé reste physiquement dans la carte et donc on ne peut pas l'extraire pour la recopier pour faire l'usurpation d'identité.
C'est encore plus sécurisé, oui, parce que donc le secret crypto-mathématique n'est même pas dans l'ordinateur, sachant que tous les ordinateurs sont piratables. Donc en fait, il suffit de débrancher la clé de l'ordinateur et tu es sûr qu'on ne va plus usurper ton identité.
Ça rajoute une couche de sécurité.
Oui, c'est ça. Tout ce que tu fais avec ton ordinateur, en fait, on peut le simuler. On n'est jamais sûr que c'est toi. Les ordinateurs, ils ont là encore des failles de sécurité qui apparaissent. Il y a toujours des failles de sécurité.
Oui, on en parle toutes les semaines, on en parle.
Voilà. Donc, à ce niveau-là, la sécurité n'est plus dans cette machine qui est un gros blob de... Un gros blob de logiciels, hein, faut visiter, on dit. Mais c'est juste dans la carte à puce qui est branchée, déconnectée. Bon, il y a toujours moyen que l'ordinateur fasse faire à la carte à puce des fausses informations, fasse signer. C'est pas complètement, mais c'est le niveau de sécurité le plus ultime qu'on peut atteindre.
C'est à la limite la surface d'attaque. Petite précision, tu as mentionné PGP, OpenPGP. Alors, OpenPGP, c'est un standard. En fait, c'est un standard qui décrit le fonctionnement des logiciels pour chiffrer notamment ses mails ou d'autres choses. PGP, c'est la première implémentation, en fait, c'est celle dont a découlé le standard après, qui a été discuté et formalisé. Okay. Il y a d'autres implémentations, donc NuPG et d'autres.
Oui, il y en a d'autres qui arrivent, c'est quoi, il y a PGP, voilà. NuPG, c'est toujours l'implémentation de référence, mais c'est vrai qu'elle a quand même un peu de dette technique et que ça devient Werner Core. En fait, on peut faire tellement de choses avec OpenPGP, et comme c'est un peu sur le modèle du bazar, il y a des petites guerres de chapelle entre. Il y a trop de souplesse dans ce qu'on peut faire avec, et il y a des gens qui le font d'une certaine façon, il y a des petites incompatibilités qui se font à droite à gauche, et du coup des gens qui disent non mais c'est comme moi, qui disent non mais c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, mais ils disent non c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, et donc c'est vrai que ça a freiné un petit peu le développement d'OpenPGP en plus de la complexité technique de faire de la cryptographie asymétrique.
Alors moi j'ai une question, ça s'adresse à quel type d'utilisateur? Est-ce que c'est les gens qui ont Windows? Est-ce que c'est les gens qui ont Linux? Est-ce qu'ils ont macOS? Enfin voilà. À qui ça s'adresse en fait?
Alors, le problème des GAFAM en général, c'est que comme PGP intègre le chiffrement par défaut, c'est la première couche, et que ce chiffrement-là s'attaque directement à leur business model. Donc Microsoft, les solutions Microsoft, Elles en font un petit peu, des fois, elles proposent d'autres solutions alternatives, mais je déconseille d'utiliser les clés sous Microsoft parce que ils peuvent toujours mettre des bâtons dans les roues si jamais l'utilisation d'OpenPGP attaquerait leur business model. Pour l'instant, Google est encore relativement compatible, c'est-à-dire que sous Android, ça marche très bien sous Android, les clés de sécurité qu'on fait.
D'accord.
Ça marche aussi, alors sous Mac, dans l'écosystème Macintosh, c'est un peu plus difficile. Donc nous, ce qu'on fait, on fait Debian, le produit Debian, c'est un Debian avec lequel on rajoute des couches de configuration et nos logiciels de vulgarisation pour faciliter l'usage d'OpenPGP. Et derrière, on crée une identité numérique, donc c'est de ce qu'on appelle le premier produit, c'est OpenPGP ID. Et cette identité numérique-là, ensuite, on peut s'en servir sur Android assez facilement grâce à Thunderbird qui a beaucoup travaillé et OpenCachen. Avec Thunderbird plus OpenCachen, donc du coup, le grand public maintenant peut chiffrer et signer ses emails sous Linux et sous Android.
Voilà.
Mais sinon, pour Mac et Windows, non, ça. J'espère que ça viendra, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, je vous le dis clairement.
J'imagine. Mais après, peut-être qu'ils ont leur propre solution. Pour chiffrer leur
après il y a
message.
Il y a des choses qui sont fournies par Microsoft, mais on a vu que des fois c'était
pas
si bien chiffré que ça.
Pas si foufou.
Voilà. Après il y a VeraCrypt, d'autres trucs pour mais ça permet, c'est plutôt utilisé pour chiffrer les disques durs notamment. Donc pour éviter qu'on se fasse si on se fait voler son ordi, que les données soient recopiées.
On a du chiffrement aussi sur Mac. Hein,
oui, mais pareil, on peut aussi chiffrer les disques durs aussi.
Ce qui fait que nos ordinateurs après ou nos téléphones, ça deviennent des briques. Voilà.
Mais voilà, ça c'est plutôt pour ce qui est des supports, donc des supports de stockage, les disques durs, etc. Après pour l'échange de mails, il faut plutôt utiliser effectivement des choses qui sont basées sur OpenPGP. En théorie, il y en a qui le font, mais c'est vrai que c'est peut-être moins bien intégré parce que aussi les développeurs, ceux qui développent ces logiciels-là, ils sont souvent sur Linux, donc effectivement, ils testent moins peut-être sur Mac et sur Windows, quoi.
Oui, après voilà, moi je voulais savoir l'ouverture et à qui ça s'adresse.
Mais Thunderbird intègre le chiffrement. OpenPGP et Thunderbird, il est disponible sur Mac, sur Windows aussi.
Aussi, ouais.
Donc on peut en théorie, c'est juste que du coup, c'est moins facile d'intégrer, et corrige-moi Jean-Jacques si je me trompe, c'est moins facile d'intégrer ça avec l'utilisation d'une carte ou d'une clé USB de sécurité, parce que notamment l'implémentation dans Thunderbird, elle n'a pas prévu ça au départ, quoi. Alors, je crois que c'est en train de changer.
On est arrivé. Il y a Laurent qui a quelqu'un de l'association, on a fait des POC. Et donc, notre identité numérique OpenPGP qu'on met sur une clé de sécurité, la YubiKey, on conseille, ou la NitroKey, il arrive aussi à déchiffrer ses emails et à signer depuis Windows. Mais il a dû faire quand même pas mal de petites modifs à droite à gauche. C'est lourd. Il y a pas mal de configurations à faire dans Windows et c'est plus fragile. Et donc, c'est pour ça que moi, je préconise pas parce que j'ai pas envie de faire du support, de perdre une heure parce que les gens, ils ont Windows et que Microsoft devrait casser quelque chose de son côté. Voilà, je tourne Microsoft, c'est une horreur. Ou alors, il faut être payé très cher, mais moi, j'ai pas le temps à perdre à faire du support Microsoft.
Non, mais voilà, après, chacun a sa manière de voir l'informatique aussi. Ouais. Hein.
Non, mais il faut dire que Microsoft fait beaucoup, beaucoup en ce moment pour promouvoir Linux. Donc,
voilà, comme quoi, voilà. Finalement. Ils prévoient le meilleur.
Et oui. Donc, t'as un peu répondu à la question que j'avais dans la liste. Voilà, quels outils vous proposez dans l'association FouPGP? T'as plus ou moins dit ça. Après, il y a des briques en dessous. Enfin, il y a plusieurs briques qui permettent de faire ça. Alors, Debian, en fait, c'est une base Debian. Donc, Debian, c'est une distribution de GNU Linux. On a déjà parlé un petit peu. Avec, donc, une surcouche pour gérer son identité numérique basée sur OpenPGP. En gros, c'est ça?
Tout à fait. Et Debian, l'objectif, c'est juste que les process Debian sont un peu longs, mais mon objectif, c'est que tout ce qu'on fait sous Debian soit remonte upstream sur Debian et profite à tous les utilisateurs Debian, et de là à tous les utilisateurs Linux, et de là à tous les utilisateurs Mac, et de là à tous les utilisateurs Microsoft. Mais la suite du chemin, c'est pas moi qui vais la faire.
J'imagine. Mais en tout cas, tous ceux qui vont pouvoir utiliser Thunderbird pour leur mail sur cette distribution vont pouvoir bénéficier d'OpenPGP. Et après, si tu fais l'utilisation d'un navigateur pour aller sur Internet, du coup, ça crypte ta navigation?
Non. Non, pas encore. L'avantage, là, je vais vendre un peu les YubiKey. Il y a une autre norme qui est concurrente, qui est la norme WebOTN ou FIDO 2. Et l'avantage des NitroKey comme des YubiKey, donc des clés de sécurité qu'on manipule dans l'association, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie OpenBGP, mais elles gèrent aussi le protocole FIDO WebOTN. Donc, on peut servir de la même clé pour signer, chiffrer ses emails et pour s'authentifier sur le web. Pour s'authentifier sur le web en OpenPGP, c'est des POC que j'ai fait il y a 15 ans qui n'ont pas été reprises nulle part, et donc pour l'instant, ce n'est pas possible, tout simplement. J'aimerais, il faudra donc mettre du code dans les navigateurs, tout ça, c'est ce que je faisais là, dans les serveurs.
Ouais, il faut
Il
vouloir,
y a
quoi.
toute une échelle. Ça va prendre 5 ans facilement.
Ah, mais t'as pas les... T'as pas les millions pour faire du lobbying chez Google et tout, pour dire ouais, on va mettre ça dans Chrome et tout.
Ah ouais, ça serait bien.
Bah, et je les aurai jamais. Et
Et
je
voilà.
n'aurai jamais les millions, puisqu'on fait du chiffrement et qu'on casse leur data, leur business model qui est
De
bah, nous
capter
sommes
les données des gens?
exactement de
C'est
capter
toi qui l'as
les
dit.
gens, pour les pour leur dire quoi penser, pour leur faire comprendre, décider à leur place de quoi penser.
Ok.
Oui, on veut
Alors...
savoir quoi acheter plutôt.
Eh oui.
Bah, c'est pareil, ça vient avec.
Alors, comment on pourrait participer si, par exemple, bah, on est intéressé par un peu la sécurité de ses mails, de ses échanges? C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui n'ont pas forcément, qui pensent en tout cas ne pas avoir grand-chose à cacher, mais
Ouais, non,
voilà.
mais bon, ça va quoi. En même temps,
Mais comment on peut participer du coup dans l'association? Qu'est-ce qui est proposé par l'association, et comment on peut s'investir aussi dans l'association pour aider?
Bien sûr. Alors, le plus simple, c'est d'adhérer. En plus, la cotisation, bah, elle est libre et ça permet de faire rentrer un peu de sous et de nous financer. Mais sinon, ensuite, surtout, là, on a un atelier qui commence à être prêt, à être rodé, justement, où en une demi-journée, les gens, ils créent leur identité, leur certificat OpenPGP avec leur identité numérique OpenPGP ID. Ça, c'est des innovations que nous avons développées dans l'association. Ils les intègrent, ils impriment en fait leur identité numérique sur du papier. Donc ça, c'est sur des en utilisant techniquement l'algorithme de partage de secrets de Shamir. On va pas revenir en fait sur. Il y a 5 papiers différents. C'est plus sécurisé que ce qu'on retrouve dans les cryptos avec la VIP 39 pour ceux qui connaissent.
L'idée, c'est en fait, on va partager la clé entre plusieurs porteurs, et en fait, il faut par exemple être au moins deux ou trois pour reconstruire la clé. Donc, par exemple, s'il nous arrive un truc, on veut que les gens puissent soit déchiffrer, soit révoquer la clé. Et en fait, bah, on a distribué ça à l'avance à des amis. Et puis, ils vont se retrouver, ou des membres de la famille, par exemple, ils vont se retrouver et on va pouvoir reconstituer la clé pour, bah, pour voilà, faire des choses. Ou si nous, on la perd, par exemple, on va redemander à qui on connaît, quoi.
Exactement. En fait, c'est une identité numérique décentralisée. Actuellement, on a des identités, on a un passeport, c'est signé par des tiers des autorités de certification, des autorités, l'État. Tu regardes ton passeport, il est signé par la préfecture. Tu ne sais pas qui a derrière la préfecture, mais enfin, y a le préfet qui a signé du moins. Tu sais pas comment il est passé, en quelle main il est passé, mais tu vois. Et c'est centralisé, c'est des pyramides, des très hiérarchiques, très pointues, de certification. Et à la tête, eh ben, on fait. Il y a un single point of failure, à la fois un single point of failure, donc un point unique qui peut. Vas-y, François, explique single point of failure.
Bah en gros, c'est un point où si ça casse, il y a tout qui part en morceaux, quoi. Voilà.
C'est ça. Et en plus, ce point où tout ça casse, c'est un contrôle énorme sur le reste de l'écosystème. Donc, nous, ce qu'on propose, il n'y a pas ça, c'est la toile de confiance. Et on est tous plus ou moins autorité de certification. Donc,
On distribue la responsabilité d'authentifier les gens et de dire oui, je le connais, un tel, c'est machin.
Donc, au final, notre modèle de confiance est à la fois plus solide et aussi plus respectueux des individus. Voilà.
C'est
Et
bien.
bon. Non, n'est-ce pas? Bon, bref. En une après-midi, les gens, sans comprendre tout ça, ils font leur identité numérique qu'ils impriment sur 5 papiers. Ensuite, qui distribuent, ils en planquent deux chez eux, ils en distribuent trois autres à un copain. Par défaut, c'est des appareils par défaut, ils vont ensuite en scanner trois, n'importe lesquels, le même jour. Et du coup, une fois qu'ils ont scanné, leur identité numérique va être transférée sur leur clé de sécurité, cette carte à puce, qui a une connectique à la fois USB et NFC.
Alors,
Et ils
on n'a
vont.
pas l'image à la radio, mais en fait, ça ressemble à une petite clé USB. Voilà.
Un dongle, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc, voilà, donc cette petite clé USB, ils peuvent à la fois la brancher dans leur PC quand ils vont déchiffrer des emails, ou quand ils vont signer des emails. Alors, quand ils vont signer des emails, ils pourront aussi signer des documents notariés. Juridiquement, ça a une valeur de notarial. Pour l'instant, il n'y a pas encore jurisprudence, il y a les notaires qui ne s'en servent pas encore. Ils ont leur techno un peu plus bancale qu'ils utilisent. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais ça pourrait être très bien que tout l'État français pourrait utiliser les signatures OpenPGP et reconnaître les signatures OpenPGP comme signatures officielles. Où on pourrait justement réinventer un État rien qu'avec ce concept-là. Et surtout, donc, ils vont brancher leur clé sur l'ordinateur pour signer des chiffres et leurs emails. Et pareil, avec leur téléphone, ils vont passer la clé derrière leur téléphone, sous Android, pour déchiffrer et signer leurs emails. Voilà ce qu'on propose en une après-midi.
Sans contact.
Sans contact. Et okay. Derrière, pour les plus avancés, pour les développeurs, bah, c'est carrément utiliser la clé pour se connecter en SSH ou pour signer ses commits.
Hmm. Et ça, c'est... Et du coup, les utilisateurs, ils ont des professions particulières pour aller avoir ce type de sécurité ?
Non.
Même pas.
Non, c'est vraiment le grand public.
C'est vraiment
là, c'est grand public. Tout le monde. Il commence à rouler, à être vendable, quoi. Et le but, c'est lorsqu'on dit, y adhérer, mais aussi on cherche justement des gens qui veulent se former pour former encore d'autres gens, pour faire proposer ces ateliers. Parce que moi, j'ai
pour répandre le savoir.
Exactement. Grâce à nos outils qui facilitent l'usage. On a développé des outils. Et dans ces ateliers, on utilise nos outils et c'est assez fluide. Mmh. Et la complexité a été, la marge de la complexité a été grandement rabaissée et est devenue accessible à tout le monde. Et du coup, tout le monde peut avoir une sécurité supérieure à celle qu'on trouve avec Signal. Bon, je ne parle pas de Telegram et WhatsApp qui sont encore moins bien, par exemple.
Voilà. Donc le but, c'est de reprendre un peu en main sa vie privée. Alors il y a des personnes qui vont avoir peut-être plus envie tout de suite maintenant, des gens qui peuvent être plus militants et qui peuvent
avoir envie de ne pas se faire fliquer tout le temps.
Voilà, exactement. Mais tout le monde peut avoir envie de dire non, je veux pas qu'on le dise dans mes mails.
On est bien d'accord.
Et ben merci Jean-Jacques. Et puis on te recevra peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets.
Oui, parce qu'apparemment tu aurais plus de 10 vies dans une seule vie, donc ce serait très intéressant de pouvoir rééchanger avec toi sur d'autres sujets.
C'est une petite musique.
On écoute une musique et on se retrouve pour
merci
l'agenda.
Merci beaucoup pour votre invitation. Je fais des gros bisous à tout le monde.
Merci.
Merci. Et du coup, on s'écoute.
Une chip tune.
Slow me down.
Toujours.
Voilà. Allez,
merci.
C'est parti.
Slow me down faster by anybody lame, TRSI.
Ah oui,
il s'agissait d'une fast music, une musique qui a été réalisée directement sur place, hein, qui dure à peine 30 secondes.
Ouais, mais c'est sympa.
Mais voilà, ça fait une petite virgule.
C'était un peu. Pourtant, j'ai normalisé en important. Mais
comme quoi, nous allons passer à l'agenda.
Ah bah oui, c'est son.
Eh bien, on a une formation découpe laser pour apprendre à utiliser la machine à gravure, la découpe du bois, le cuir, les d'autres matériaux périlleux sur inscription, adhésion et 35€. Oh bah au fabricant.
Ah oui.
Eh bien oui, ce sera le 6 mai, la semaine prochaine, de 18h à 20h, donc toujours au Fabrico, cette belle image à Valence.
Festival Micro Contact. Ce festival propose de nombreux thèmes comme la licence libre, l'informatique musicale, la démo scène, le do-it-yourself, avec notamment Cookie Collective.
Qui fait des chiffres.
Du 8 au 10 mai, plusieurs lieux à Saillant, dans la Drôme.
Ouais, on va voir si on peut essayer d'y aller, mais moi je suis pas dispo donc.
Post Café Linux, peut-être Madbelle pourra.
Ça fait un peu loin, ça vient dans la Drôme.
Post Café Linux, votre rendez-vous hebdomadaire.
Ah, rendez-vous, vous êtes servi.
Est-ce que Linux vous passionne ou vous voulez simplement jaser de logiciels libres dans une ambiance décontractée ? Rejoignez-nous pour la pause Café Linux, un rendez-vous unique de la francophonie linuxienne. C'est le moment idéal pour briser l'isolement, partager vos découvertes et rencontrer d'autres passionnés de l'écosystème Linux au Québec. Tous les vendredis de 11h45 à 13h, heure locale au Québec, eh bien c'est en virtuel.
Ah,
tabarnacle. Croco Festival, l'événement annuel des Amstrad Grand Prix et des vieux et autres vieux ordi, payant sur inscription du 8 au 10 mai à Rochefort.
Eh bien, du lien des liens, Mému, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper ?
Eh bien, toutes les vidéos du FOSDEM 2026 sont maintenant en ligne, y compris là, pour la DevRoom Retro Computing. J'avais regardé.
Dessus.
Ouais, j'avais surveillé, mais il y en avait une qui n'était pas dispo et tout, et moi, j'avais pas l'accès pour le faire. Master Boot Record, MBR, sort un album live, Real Time Execution. Alors, contrairement aux albums studio entièrement faits par ordinateur, celui-ci enrichit leur musique avec des guitares et des performances sur des Commodore 64 et Amiga 500.
Oh, parfait!
Et ouais, j'ai écouté, c'est sympa. On connaissait Bonjour la fuite, qui liste les fuites de données, mais comme toutes les initiatives bénévoles, il a eu droit à son repompage par d'autres... Non, je blague. Mais France 8, c'est le premier portail public à assumer pleinement ce que tout le monde sait déjà. Vos données personnelles ont fuité, fuitent encore et fuiteront demain. Plutôt que de le cacher, nous en avons fait un service public. On vous rassure ou pas, c'est une parodie ce coup-ci.
Je vois Jean-Jacques qui est mort de rire.
Ah oui.
Ah, ça, d'ailleurs, tu parlais de sécurité. Ben là, non,
ah
c'est...
Là, on est en plein dedans.
C'est, voilà. Eh bien, astrologique, frottons cette boule.
Alors, libriste, mes circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse, courant pleut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe, je veux gnu PG à la place, oh oh vestige de l'armure.
Ah oui, mes cœurs, alors ce chèque gravé au laser sur une planche est légal, par contre va-t-il passer la porte de la direction des impôts?
Oui, on rappelle qu'on a le droit de faire un chèque sur tout support, il faut juste qu'il y ait toutes les mentions légales.
C'est ça.
Et du coup, et des fois... Nerd, oui, tiens, du coup, bah, ça m'étonne que personne n'ait encore proposé de renommer Orange en France Télécom. Parce qu'il y a plein de renommages de France machin, France bidule.
Typographe, ne pas confondre police de caractère avec flic énervé.
Télétravailleur, si vous voulez vous brancher chez le voisin... Prévoyez l'enrouleur avec la bonne longueur de câble.
Cryptographeur, on déchiffre, bordel. Non, là, on est vraiment dans une crypte.
Quoi, j'ai dit une bêtise tout à l'heure?
Non. Voilà, voilà.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Retrouvez nos liens sur le blog underscore.radio.fm.
Et puis, on rappelle que quand même, vous pouvez nous écouter sur Radio Méga, 99.2.
Radio Primitive, Westrack ou bien Fréquence Mutine.
Ou Radio Cactus.
Et aussi Cactus.
Qui n'est plus à Saumur embryonnais.
Non, ils sont à Marseille. Voilà. Je salue nos amis Saliane et Sylvain qui... peuvent aussi nous écouter de temps temps quand on passe dans leur poste aussi, quand ils rentrent chez eux et qu'ils nous écoutent, parce que le mardi, c'est à 20h là-bas. Et oui, on n'est pas écoutés aux mêmes heures. Quoi qu'il en soit, eh bien,
merci Jean-Jacques, ouais.
Merci de nous avoir supportés pendant cette heure.
Merci à vous, c'est peut-être moi qui vous remercie, c'est vous qui m'avez supporté. En plus, on a dépassé le...
Le temps,
ça va, on sera pas coupé.
Non, ça va. On arrive à faire des magies au montage.
Non, il y a pas besoin là. Y a pas besoin.
Non, nickel.
Pour l'instant, ça va.
On fait pas vraiment.
On déborde pas trop.
Ça devrait le faire.
Eh bien.
À la semaine prochaine.
Ah bah ouais.
Ciao. Salut.
Bye.
Bye. Ah, il faut que je mette le générique sur le machin là et hop et que je fasse.
Voilà.
Ah ouais. Bah, faut tout faire à la main là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça dépend.
Manuel. On est Manuel.
Oh, Manuel. Manuel. Lance le générique.
Manuel Valls.
Manuel. Ah, allez, lance le générique.